sur RVE.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Le temps des copains.
Belle, belle, belle comme le jour.
L'émission des années 60. Hey, hey. Sur RVE. RVE. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la tempête Amélie se rapproche. 15 départements allant de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal, sont désormais placés en vigilance orange vent violent. Les rafales de vent, souvent accompagnées de fortes pluies, ont atteint 163 km/h au Cap Ferret et 146 km/h à Belle-Île. En Gironde, le trafic des TER est interrompu et celui des TGV est perturbé. Deux autres départements, la Corse du Sud et les Alpes-Maritimes, ont été placés sous vigilance orange pluie inondation. Emmanuel Macron en Chine, le président français entame demain sa deuxième visite officielle en Chine. Pendant trois jours, le chef de l'État vantera les produits français, principalement agroalimentaire. Il inaugurera une antenne du musée Beaubourg et rencontrera le président chinois Xi Jinping. En Syrie, une explosion sur un marché a fait au moins 13 morts et 20 blessés hier à Tel Abyad, une ville dominée par les Kurdes au nord du pays. Cette explosion s'est produite pendant que des milliers de personnes manifestaient contre la Turquie. Le ministère turc de la Défense a vivement condamné cet attentat qu'il qualifie d'inhumain. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont écarté la possibilité d'un Brexit sans accord. L'objectif des alliés du Premier ministre Boris Johnson est désormais de faire aboutir le compromis auquel sont parvenus Boris Johnson d'une part et les Européens de l'autre part le mois dernier. Enfin, tennis, game over pour Nadal. Le tennisman espagnol a déclaré forfait peu de temps avant le début de sa demi-finale au Masters 1000 de Paris contre Shapovalov hier. Le numéro 2 mondial s'est plaint de douleurs aux muscles abdominaux. La finale parisienne opposera donc cet après-midi le Canadien Denis Shapovalov au numéro 1 mondial, le quasiment imbattable Novak Djokovic.
Philippe et toute son équipe vous attendent juste après ce point météo pour la journée, avec un ciel qui sera très pluvieux pour aujourd'hui et des températures qui, elles, ne dépasseront pas les 11 degrés. À présent, eh bien, c'est votre émission Tribune Foot présentée par Philippe jusqu'à 11h. Très belle matinée à tous sur RVE, votre radio locale préférée, bien sûr.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Bah effectivement, bonjour à toutes et à tous, hein. C'est Tribune Rugby ce matin, puisque le ballon rond, on l'a dit au mois d'octobre et novembre, a laissé sa place au ballon ovale, hein. On s'était donc vu le mois dernier. On va revenir sur ce mondial qui s'est achevé hier. On va naturellement commenter tous les matchs, hein, qu'on a vus pendant un peu plus d'un mois avec notre équipe déjà présente la semaine dernière. Alors, on va saluer notre ami Ch'ti, Francis Coche. Ça va, Francis?
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, ça va très bien.
Ben Forme, c'était sympa ce mois et demi de ballon ovale?
C'était sympa. Je trouve que le jeu a changé un peu de physionomie, mais on en parlera après.
On va en parler. Allez, il est avec nous aussi, c'est notre ami basque, Jacques, salut, que je salue.
Oui, ben bonjour.
Jacques qui va se présenter lui-même. Hein. Ouais. Donc, trois quarts centre, il était là le mois dernier.
C'est ça, voilà, et j'étais là le mois dernier, et puis à nouveau là pour commenter un petit peu ce match hier, cette finale.
Voilà, et puis il aurait aimé commenter, comme il y a 8 ans, une finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'est notre ami Gilles Schmitt. Salut Gilles.
Bonjour.
Ça va? Manque de chance, on ne commentera pas cette finale. L'équipe de France est arrêtée en quart de finale.
Effectivement, mais enfin, ça reste quand même. On a vu une belle finale.
Oui, oui, on va donc en discuter. Puis, on va saluer Xavier Caris qui devait être avec nous, mais il fête son anniversaire, Xavier. Donc, je sais qu'il nous écoute. Donc,
et puis, 60 ans, ça se fête.
Voilà, c'est ça. Donc, on va lui faire un petit coucou ce matin. Alors, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de revenir donc sur ce mois et demi de compétition et sur les matchs donc, qu'on avait commentés depuis notre dernière émission du mois d'octobre, d'une façon générale, comment vous avez trouvé cette Coupe du Monde, Jacques?
Eh ben moi plutôt bien, l'organisation était vraiment bien, enfin, je veux dire, les Japonais, bon ils étaient prêts, hein, mais on a vu toute leur organisation, et puis toutes les équipes qui sont données à fond, c'était vraiment plaisant, une belle Coupe du Monde, et puis un beau résultat.
Plus belle qu'en 2015, parce qu'on a vu un beau mondial en 2015.
Hein. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était aussi bien, parce que bon, il y a eu quand même des matchs très beaux, et puis bon, l'Afrique du Sud qui fait un super champion, enfin, ça a été vraiment bien, quoi.
Oui. Gilles, belle Coupe du Monde, surtout grand succès populaire au Japon.
Alors effectivement, grand succès populaire, belle Coupe du Monde, bien organisée. Je mettrai un petit bémol. C'est quand même par rapport, je veux dire, au match qui a été, je veux dire, annulé.
Oui. On va en parler. Hein.
Qui reste quand même à ce niveau-là, quand même une.
Quand même, ouais, c'est une grande première quand même. Hein, mais bon.
C'est une grande première, certes. Mm-hmm. Mais on pouvait largement identifier un plan B, enfin organiser un plan B. Mais à ce niveau-là, ne pas jouer un match de poule. Contre l'Angleterre me paraît comme une fausse note quand même.
Surtout qu'on savait que au Japon fin septembre début octobre c'est souvent une météo très.
Oui tout à fait, c'est pour ça que c'est surprenant.
Très difficile quoi.
Voilà, statistiquement parlant, la probabilité que ça arrive existait et qu'il n'y ait pas eu de plan B, ça a un peu faussé. Mais au-delà de ça, ça reste qu'à une belle organisation, un élan populaire, en tout cas une belle Coupe du Monde.
Francis, chef
oui,
du monde.
Très belle organisation, avec des Japonais qui se sont mis aussi au diapason, hein, parce que l'équipe de Japon nous a surpris. Hein, ça a été, je dirais, la surprise de cette Coupe du Monde.
Oui.
Bon, après, effectivement, on peut regretter qu'on annule des matchs parce que pour la météo, mais enfin, bon. C'est étonnant de la part des Japonais qui ont toujours des idées, là. Ils sont un peu secs. Hein.
Alors justement, on s'était vu au mois d'octobre, hein, on était encore en match de poule, et justement dans le groupe A, on va quand même rappeler que depuis qu'on s'est vu, eh bien l'Écosse avait battu la Russie 61-0, l'Irlande avait battu les Samoa 47-5, et surtout on parlait de ce match Japon-Écosse, le Japon a battu l'Écosse 28-21, ce qui lui a permis de finir première de sa poule. Ça, c'est quand même, c'était pas non plus prévisible au départ, peut-être. Hein, le Japon qui avait fini première avec 19 points devant l'Irlande 16 points, troisième l'Écosse 11 points, quatrième Samoa 5 points et cinquième Russie 0 points. Il termine quand même devant les Irlandais.
Alors effectivement, en tout début de Coupe du Monde, c'était pas le. Je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient parié sur le Japon, mais sincèrement, au vu du match Irlande-Japon. D'ailleurs, je pense j'avais pronostiqué la victoire du Japon.
C'est vrai, on peut ressortir les bandes. Hein,
oui, ressortir les archives.
J'avais dit, s'ils ne gagnent pas, ils font un harakiri.
C'est ça, ouais, c'est vrai.
Voilà, non, mais au vu de la prestation contre l'Irlande, il y avait tout lieu de penser que les Japonais gagneraient contre l'Écosse. L'Écosse qui n'a pas fait non plus un très très grand mondial.
Non, ils sortent au premier tour, les Écossais, hein, alors qu'ils étaient quand même en quart de finale, on s'en rappelle, en 2015, et qu'ils avaient frôlé la demi-finale, ils avaient titillé l'Australie.
Ils avaient fait un super quart de finale.
Ouais, ça s'était joué de pas grand-chose. Hein. Mm. Bon, voilà. Alors justement, le groupe B, bah, c'est un groupe où on a annulé deux matchs, hein, Nouvelle-Zélande, Italie et Namibie, Canada. Auparavant, l'Afrique du Sud avait étrié le Canada 66-7 et puis la Nouvelle-Zélande en avait fait de même en écrasant la Namibie 71-9. Donc la Nouvelle-Zélande qui était sortie première cette poule avec 16 points, devant l'Afrique du Sud 15 points, deuxième, troisième l'Italie 12 points, 4e Namibie 2 points et 5e Canada 2 points. L'Afrique du Sud, 2e de sa poule en perdant un match et champion du monde à l'arrivée.
Ben oui, ouais. Mais l'Afrique du Sud, sur le.
En foot, ça arrive, ça, hein, qu'on perde des matchs sur les premiers tours dans une Coupe du Monde et qu'on soit là, présente à l'arrivée.
Oui, mais déjà, bon, le match, moi je me rappelle bien d'avoir eu ce match, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud m'avait fait une grosse, grosse impression parce qu'ils avaient vraiment produit beaucoup, beaucoup de jeux. Et j'étais ils sont tombés sur du réalisme, mais surtout sur des contres dans le match. Et puis les Blacks avaient gagné sur des contres en fait. Mais il m'avait fait une grosse impression. Je m'étais dit ils iront loin. Et a priori ils sont en finale, donc c'est qu'ils étaient vraiment.
Et ils l'ont gagné en plus.
Et ils l'ont gagné.
Ouais, voilà. Ouais. Allez, le groupe C. Alors justement, ce fameux match où on a donc annulé Angleterre, ce fameux groupe où on a annulé Angleterre-France. On va quand même rappeler que la France avait battu le Tonga 23-21, que l'Argentine avait écrasé les USA 47-17 et que le Tonga avait battu les USA 31-19. L'Angleterre qui malgré tout, Gilles, sort premier de la poule à 17 points devant la France 15 points deuxième, l'Argentine troisième 11 points, 4e le Tonga 6 points et 5e donc les États-Unis 0 points. Si on nous avait dit quand même que la France sortirait de cette poule, c'était pas évident quand même.
Oui, c'était
pas gagné. Bon, ça s'est joué un coup de pied de pénalité, hein, contre l'Argentine.
Alors, c'est vrai, mais enfin, il y avait quand même un pessimisme ambiant.
Voilà.
Il faut pas non plus. Ouais. Il y avait quand même
voilà.
un peu.
On a il faut fait un toujours peu être modéré. Voilà.
Mm-hmm. On a surcoté, je veux dire, nos amis argentins, qui développent du beau rugby. Mais enfin, ils ont développé du beau rugby contre les Américains, contre les États-Unis, contre les équipes, je veux dire, mineures. Et on n'a pas vu non plus les Argentins, je veux dire, au niveau...
On a connu mieux, hein, dans les années 2007-2011, on a connu l'équipe d'Argentine qui était meilleure.
Par contre, il est vrai que le match contre l'Argentine, a été un match au coup près. On a senti les joueurs tétanisés. Parce que ça aurait une défaite aurait été tout simplement une catastrophe.
C'est fini, on passait pas le premier tour.
On passait pas le premier tour, puis il y aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour le rugby français. Donc là, voilà, en tout cas, ils ont gagné, on retiendra ça. Mais ça restera une poule, bizarroïde, parce que les Français étaient stressés, les Anglais étaient au-dessus du lot, les Argentins qui jouent aussi leur survie. Je trouvais que c'était une poule. C'est pas là où on a vu les plus beaux matchs, quand même.
Ouais, parce que l'Angleterre avait écrasé aussi l'Argentine avec 39-10, hein. Il faut rappeler. Alors, le fait qu'on n'ait pas joué les matchs, on va quand même rappeler qu'on a mis un point à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a déclaré un nul 0-0 et que les équipes ont pris un point au classement. Ça a été un avantage, ça a été un désavantage. Il aurait mieux valu jouer ce match.
Je pense que si on joue contre l'Angleterre, au vu de la prestation, on n'arrive pas en quart de finale contre les Gallois de la même façon. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est toujours extrêmement délicat de faire des scénarios comme ça un peu. Mais en tout cas, il est bien évident que le 15 de France n'arrive pas. D'abord, je pense qu'on n'aurait pas gagné.
Oui, je suis d'accord.
Ouais, voilà. Et on n'arrive pas dans la même fraîcheur, avec la même envie, contre le quart en quart de finale contre les Gallois. Mm-hmm. Donc voilà, bon, retenons les renotons le fait. Il y a eu match nul, et puis voilà, c'est pas.
Francis, d'accord avec.
Oui, tout à fait. Oui. Mais je pense que bon, ça nous a un peu arrangé. Et puis, il n'y a pas eu de discussion parce que bon, ça a arrangé l'Angleterre et ça a arrangé la France, très honnêtement.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu des morts, quand même, dans le typhon. Et là, donc, il fallait annuler les matchs. Mais comme disait Gilles, on aurait peut-être pu trouver un plan B, faire jouer, en Corée ou dans les pays voisins. Est-ce qu'il y avait des infrastructures, Jacques, notamment?
C'est vrai qu'on peut être surpris un petit peu parce que l'organisation qui a été vraiment excellente. De la part des Japonais, ça nous a laissé un petit peu sur notre faim. C'est vrai de voir deux matchs comme ça, de cette importance, qui sont pas joués. Ben, c'était une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, d'ailleurs.
Ah oui, c'est sûr.
Tout le monde a relevé ça, quoi. Encore une fois, on se pose la question d'avoir fait ce tournoi à cette époque de l'année, quoi. Enfin bon, ils espèrent beaucoup de...
Ça va peut-être donner des idées aux instances en disant prévoyons systématiquement un plan B maintenant. Ils n'avaient jamais été confrontés à ce problème.
Ça fera trois matchs au total, n'ont pas pu se dérouler. Trois matchs où on a décrété donc match nul et un point pour les équipes. Dieu merci, ça n'a pas eu d'incidence sur le classement final. Mais voilà, ça aurait pu. Allez, les derniers matchs de la poule D depuis que l'on s'était vu. Donc il y a eu la victoire du Pays de Galles devant les Fidji 29-17. L'Australie qui avait écrasé donc la Géorgie 27-8 et le Pays de Galles qui avait battu l'Uruguay 35-13. Le Pays de Galles qui était sorti en tête de cette poule avec 19 points, devant l'Australie 16 points, 3e les Fidji 7 points, 4e la Géorgie 5 points, et 5e l'Uruguay 4 points. Là, c'était les deux équipes qu'on attendait.
Oui, de toute façon, c'était les nations un peu majeures qu'on voyait dans cette poule-là sortir, et puis il n'y a pas eu de surprise. Bon, on pensait que l'Australie serait au niveau du Pays de Galles, voire devant.
Le Pays de Galles,
Le Pays de Galles, sur les années qu'ils ont fait depuis quelques années, ils méritaient largement d'être premiers et puis de faire le parcours qu'ils ont fait.
On va rappeler qu'ils avaient battu, on en parlait le mois dernier, l'Australie 29-25.
Oui, tout à fait.
Dans ce match décisif et déterminant. Alors, messieurs, on est arrivé donc après ce premier tour. Donc, excepté l'Argentine et puis l'Écosse, la logique a été respectée pour les autres équipes qui sont pas passées le premier tour. Hein. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Voilà.
Donc, on arrive en quart de finale et on commence avec un premier quart de finale. Angleterre-Australie, victoire de l'Angleterre 40-16, grosse équipe anglaise qui avait véritablement impressionné, 10 grosses premières minutes australiennes, et ensuite défensivement, offensivement, cette équipe anglaise avait maîtrisé le match, elle a très largement dominé l'Australie, là on s'est dit c'est un sérieux candidat à la victoire finale,
sur ce match,
40-16.
C'est vrai que le score, ils ont pas failli dans aucun comportement du jeu, ils ont été forts dans les mêlées, ils ont été forts partout, et c'est vrai qu'on a vu une équipe anglaise très complète, qui a vraiment pratiqué un jeu qui m'ont impressionné, moi. Enfin, je veux dire, sortir les Australiens de cette manière-là, et ben c'est, oui, ça restera quelque chose, un gros match, oui.
Oui, avec une belle maîtrise de jeu, ce que moi, ce que j'ai retenu de ce match-là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de faute.
Oui.
Ça, c'est quand même.
Ils marquent sur la première occasion, voilà, réaliste,
ils ont
efficace.
Ils ont deux passes au pied, deux passes millimétrées, donc en pleine course. Alors, pour ceux qui ont déjà couru, ballon. Et en plus, les deux passes au pied sont millimétrées, il y a très peu de fautes. Et ils ont déroulé, c'était un rugby quasi parfait. Enfin,
il y avait un monde d'écart sur ce match. L'Angleterre était très bonne. Hein.
Ouais, oui, c'est un peu la déception, que l'Australie n'a pas été au niveau, à mon avis, sur ce match.
Oui, mais c'est parce que l'Angleterre était très bonne, Francis.
Elle était très bonne, oui, mais l'écart de points est tout de même impressionnant. Hein.
C'est con,
Pour des équipes de ce standing, l'Australie prend 40 points.
Parce qu'on se rappelle, il y a eu 10 grosses minutes australiennes, une grosse pression, et puis les Anglais marquent sur la première occasion, après, voilà, ceux qui ont la maîtrise du match, ils sont bons défensivement, ils sont réalistes, ils sont pragmatiques, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, dans l'après-midi, pareil, la Nouvelle-Zélande qui écrabouille, hein, n'ayons pas peur des mots, 46-14, l'Irlande.
Là, pour moi, c'était la grosse surprise, la débandade de l'Irlande en face des Blacks, là.
Ouais. Parce que, autant d'écart, c'était.
Ah, pour moi, c'est une surprise, hein, parce que l'Irlande est tout de même bonne par ces temps. Hein.
Oui, oui. Mais au vu du match, enfin, je sais pas moi, au vu du match qu'ils avaient fait contre le Japon, on voyait quand même que c'était pas l'Irlande que l'on a connue avec le rendement que l'on connaît. Mm-hmm. Alors, je suis pas surpris de la victoire des All Blacks, bien sûr.
Non,
par contre, Francis, surpris de l'écart.
C'est l'écart, peut-être.
Ah, ouais.
C'est l'écart.
L'écart de points sévère, ouais. Parce que là, il n'y avait pas de division d'écart, mais là, en l'occurrence. Ils ont été dépassés par la...
Alors c'est peut-être là qu'on voit la différence entre encore l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, parce que, bon, l'Irlande, ils font quand même le grand chelem en 2018, le Pays de Galles, ils font le grand chelem en 2019, et puis, bah, finalement, il n'y a pas photo contre la Nouvelle-Zélande, quoi.
Il n'y a pas photo.
Non, mais c'est vrai, c'est peut-être
ça qu'on voit qu'il y a encore un écart. Dire que le meilleur européen ne joue pas dans une division que le meilleur...
C'est là où on s'aperçoit que, comme tu dis, l'hémisphère sud est tout de même encore nettement meilleur que l'hémisphère nord.
Jacques, sur ces matchs-là, parce que quand on voit les matchs du tournoi, on voit le Pays de Galles, on voit l'Iran, on dit c'est des belles équipes. Et puis là,
des matchs européens, Philippe.
C'est vrai que quand on regarde un petit peu le passé, c'est... On voit que l'Irlande est capable d'aller battre l'Angleterre, et puis on se disait, moi aussi, je pensais que l'Irlande, on la verrait dans cette Coupe du Monde, qu'elle serait présente. Et puis là, elle est vraiment passée à côté pour moi de cette Coupe du Monde. Elle n'a pas été au niveau, et le lac, ils ont été. Bon,
elle s'arrête en quart de finale, comme en 2015, elle avait été battue par l'Argentine, on s'en rappelle.
On peut se poser la question, est-ce que c'est le calendrier, est-ce que c'est la période dans laquelle se joue la Coupe du Monde qui a fait que les équipes européennes étaient peut-être un peu moins bien? Je sais pas.
Est-ce qu'au mois de juin, ce serait pas pareil?
C'est fin de saison, là, c'est tout début de saison. Ils sont pas en pleine activité, hein, toutes ces équipes hémisphère nord.
Alors, avant de revenir sur ce quart de finale de l'équipe de France contre le Pays de Galles, on va revenir sur la victoire d'Afrique du Sud qui avait battu le Japon 26-3. Des Japonais qui avaient quand même titillé l'Afrique du Sud en première mi-temps, puis qui ont complètement cédé et qui se sont écroulés en deuxième mi-temps.
Oui, tout à fait. Hein, mais les Japonais, ils avaient tellement été bons sur les matchs précédents qu'il fallait se douter qu'arriver là... est-ce qu'ils auraient l'énergie pour passer une mi-temps, oui, mais après sur le physique, on a vu que c'était il y avait quand même un écart, quoi. Mais ils ont été quand même exemplaires on dirait pas en 40 minutes, au moins ils ont existé, ils ont été présents effectivement.
Et puis je pense que les Japonais avaient déjà gagné leur tournoi.
Ils avaient
rempli leur contrat quart de finale.
Avec la nation nippone, ils avaient déjà rempli leur contrat, du moins le contrat moral et le contrat aussi sportif. Donc c'est quand même extrêmement important. Donc ils arrivaient, c'était pas le Graal pour eux, mais d'arriver en quart de finale, c'était l'objectif qui s'était donné. Ils y étaient. Et n'oublions pas que les Sud-Africains avaient été quand même cueillis à froid il y a 4 ans.
Ils avaient été battus par un Japon.
Ils avaient été battus. De quelle manière?
Oui.
De quelle manière? Donc je pense qu'il y avait quand même un petit goût de revanche. Ils ne voulaient pas se faire avoir une deuxième fois de suite.
Ouais, Francis.
Ouais, je pense que les Japonais ont atteint leur objectif en arrivant à ce stade de la compétition. Bon, ils ont tenu une mi-temps, voilà. Bon, ouais, après, effectivement.
Cet enthousiasme japonais qui n'a pas pu grand-chose face à la puissance de ces
Et l'expérience, parce que bon.
Ouais.
Il y a pas beaucoup, il y a moins d'expérience chez les Japonais que chez les Sud-Africains.
Justement, il faut intégrer maintenant le Japon après cette Coupe du Monde dans les, on parlait des trinations là, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie. Il faudrait mettre le Japon maintenant.
Au vu de ce qu'on a vu, effectivement, oui. Mais après,
c'est les décalages horaires, c'est les déplacements.
C'est leur championnat. Je sais pas ce que vaut le championnat japonais, s'il y en a un, je sais.
Le championnat japonais, il est souvent financé par les entreprises. Et puis il y a beaucoup de gens du Tonga, du Fidji, beaucoup de Néo-Zélandais à la retraite qui viennent finir leur carrière.
Naturalisés, quoi.
Qui viennent, finir leur carrière. Mais moi, ça me paraît tout à fait normal. Hein. En tout cas, si c'était le cas, je ne vois pas scandaleux qu'ils intègrent le championnat avec, avec l'Argentine, l'Afrique du Sud. Ouais, tout à fait. Hein.
Très bien. Allez, on va envoyer la pause musicale, la page de pub, et ensuite on va venir à ce dernier quart de finale qui nous concerne plus particulièrement, ce fameux match perdu par l'équipe de France contre le Pays de Galles 20-19. Allez, la pub et la musique.
Nouveauté à la Bastienne de menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbassienne de menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous êtes à la recherche d'un terrain, d'un local d'activité, de bureau, d'un entrepôt, d'un local commercial ? Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités actuelles ? La Bourse Locaux de la communauté d'agglomération vous permet de trouver sur l'une des 36 communes du territoire des opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins. En collaboration avec les professionnels de l'immobilier, la Bourse Locaux est gérée par le service développement économique de Rambouillet Territoire qui a pour mission d'aider les entreprises à s'installer dans les meilleures conditions. Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry-Pontin.
The season promise not to stay. vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, 10h25, cette émission elle sera en podcast dans le courant de la journée. Hein, donc si vous voulez réécouter toutes nos émissions depuis le début de saison, il n'y a aucun problème. Et puis même sur l'année 2019. Bon, France-Galles, battu donc, défaite de l'équipe de France 20-19. Alors on était sur un sentiment partagé, messieurs, parce que ce match, l'équipe de France doit le gagner. Hein, à l'inverse du Pays de Galles, il y a 8 ans où on bat les Gallois d'un petit point, alors qu'eux méritaient de gagner cette année-là, cette demi-finale. Et puis finalement, ce quart de finale, il correspond assez bien à notre niveau sur l'ensemble de ces 4 dernières années. On n'a pas progressé d'un iota par rapport au quart de finale perdu en 2015. Jacques.
Oui, c'est vrai que les matchs de poule, moi, ils m'avaient pas enthousiasmé de l'équipe de France. On pensait qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux. Et on a l'impression qu'ils étaient encore dans les réglages. Et puis, et pourtant, ils arrivent en quart de finale et ils font un match assez extraordinaire.
Très belle première mi-temps. Hein.
Ah oui, oui.
Ah, ils font le match de référence de leur Coupe du Monde.
Voilà, ils font le plus beau match de leur Coupe du Monde. Et, on perd. Bon, les poteaux, et puis l'explosion.
Alors, voilà. L'équipe de France s'est battue elle-même. C'est l'équipe de France qui se bat elle-même. Hein. Finalement, le Pays de Galles, il gagne sur les fautes françaises.
Et sur les fautes françaises, sur les expulsions.
Assez souvent.
On joue très longtemps à 14. Bon, mais c'est vrai qu'on a tout de même tenu la dragée haute, ces Gallois. Hein.
Oui, alors, on prend quand même des essais sur des ballons perdus. On laisse échapper 5 points sur des coups de pied de pénalité. Bon, il y a Vana Maïna hein, qui se fait expulser naturellement. C'est le fait marquant de ce match.
C'est le fait marquant, ça a contribué à perdre le match, effectivement. Mais bon, on est aussi à notre niveau, c'est ce qu'on disait à la pause. Hein. L'équipe de France n'a pas prouvé grand-chose ces dernières années. Je pense qu'on est au milieu du classement européen. Et là, on a même sorti un beau match sur ce quart de finale.
Gilles, Vana Maïna qui sort, c'est le fait marquant de ce match. Est-ce qu'il fait perdre l'équipe de France ou c'est une succession de plusieurs choses?
Alors sur
parce que le pauvre, il faut qu'il gère ça maintenant. Hein,
oui, Vana Maïna, sur le jeu, si on prend que le match...
Oui,
du maire intrinsèque.
On mérite de gagner ce match, hein, sans problème.
On mérite de gagner ce match. Je vous rappelle simplement que pendant le tournoi, la première mi-temps, pendant le tournoi des nations, on fait une très belle contre les Gallois, une très belle première mi-temps.
Et on s'écroule.
On est même à, je crois, 16 ou 19 points, mm-hmm. à 3. Et en seconde mi-temps, on se fait remonter et on perd. Mm-hmm. Au passage, Gervaina fait ce jour-là une belle bourde.
Oui.
C'est juste... mais sur le fait de jeu... Je pense que les joueurs français de se discipliner, on peut plus, sincèrement.
Oui.
On peut plus, tolérer de telles fautes. Alors.
Grossier en plus.
Je me rappelle aussi.
Sachant qu'elle est vraiment. Ouais. On voit bien. Il se dégage, il arme le bras, il fait un mauvais coup. En plus, c'est sur un maul, tout le monde le voit, toutes les caméras sont sur lui. D'imaginer que ça va passer au même moment d'ailleurs sur le côté. Il y a de demi-mêlée, Dupont qui peut partir marquer un essai. Enfin, c'est quand même des fautes de jeu. Maintenant. Maintenant, un, il doit avoir un travail de discipline. Deux, je pense qu'on n'a pas progressé depuis 4 ans. Mmh. Et il y a un sacré chantier de devant nous. Donc globalement, oui, on était à notre place. Globalement, hein, mais sur ce fait de match, on pouvait aisément gagner ce match.
Oui, c'est sûr.
15, on gagne le match.
C'est le côté émotionnel hein, pour Vana Maïna. Alors, on sait que bon, le sport de haut niveau, c'est ça. Hein, lui devait être malheureux de ce geste, mais on sait qu'il y a le côté émotionnel du sport.
Ouais, mais ça doit faire partie des ingrédients d'un international.
Oui, oui, oui. Mais Zidane, il fait pareil au Mondial 2006, hein. En finale, on lui a pardonné pour l'ensemble de sa carrière. Vana Maïna, ça va être plus difficile à gérer.
Un Gungling qui, excusez-moi le terme, qui pète un plomb en championnat, c'est une chose. Mm-hmm. Un Gungling qui pète un plomb en quart de finale Coupe du Monde avec 40 caméras dans le stade.
Oui.
Ça en est une autre, quand même. Enfin,
mm-hmm. Mais l'équipe de France a quand même perdu beaucoup de points, hein. On parlait du Pays de Galles. Il y a eu des matchs perdus en Écosse. Je me souviens aussi dans le tournoi où en début de saison, où l'équipe de France n'est pas capable de gérer un match. Elle perd beaucoup trop de points. C'est sa grosse difficulté. Elle se bat elle-même.
Si on prend l'exemple, par exemple, des buteurs sud-africains, hier, 95% de taux de réussite.
Et nous,
un seul perdu. Nous, on fasse des perches, 2 points, on ne les prend pas. Mm-hmm. On ne veut pas gagner une Coupe du Monde avec un buteur qui est à 60, 65 ou 70%, je veux dire, de taux de réussite. Et tant qu'on n'a pas dépassé la barre des 90 ou que... C'est pas possible autrement, quoi.
C'est vrai que c'est quand même, bon, incroyable, première mi-temps, nous, on prend l'antenne, on regarde la première mi-temps, avant la prise d'antenne, hein, ça tombe, à la mi-temps, ça tombe bien, puis on regarde le match après l'antenne avec Claude Maignan, des gens du Tour, deuxième mi-temps, l'équipe de France qui perd ce match, on n'y croyait pas, quoi.
Ouais, mais c'est le reflet un peu de l'équipe de France de ces dernières années, ça tient une mi-temps, quoi, là.
Voilà, c'est ça.
Oui. Mmh. Ça tient une mi-temps, puis la deuxième, l'équipe d'en face revient toujours. On voit pendant le tournoi, c'est toujours pareil, comme tu le disais. Ça va bien en première mi-temps, en seconde, ben, je sais pas. Soit les changements sont pas opportuns, je sais pas, ou les jeux ne sont pas au niveau.
Mais bon, problème. C'est vrai quand même qu'on voyait pas. Si on nous avait dit qu'on frôlerait les demi-finales avant la Coupe du Monde, je pense quand même qu'on aurait signé tout de suite, monsieur. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, parce que, effectivement, encore une fois, sur les matchs de poule, ils nous avaient rien montré, ces Français. Donc, on se disait, ça va être vraiment compliqué pour la suite. Et puis là, ils nous sortent, un match du chapeau. C'était impressionnant quand même. Enfin,
surtout la première mi-temps.
Derrière eux, bien sûr. Enfin, je veux dire, on y croyait à cette première mi-temps-là. Et puis, bon, il a fallu un fait de jeu, effectivement. Mmh. Et puis, un manque d'efficacité des buteurs. Dans une Coupe du Monde, c'est compliqué. Et pour aller plus loin, il aurait fallu vraiment être à 100% dans l'efficacité.
Mais comme le disait Gilles tout à l'heure, le fait de ne pas avoir joué à l'Angleterre, on aurait certainement perdu. Ça nous a un peu motivé un peu plus.
Mm-hmm. Puis rappelons que les Gallois, c'est aussi encore. On est en quart de finale, encore contre une équipe européenne.
Hein. Oui.
C'est-à-dire qu'on aurait rencontré l'hémisphère sud qu'en demi-finale. Ceci explique cela. Hein, parce qu'en première, au quart de finale, si on rencontre une équipe en hémisphère sud et on joue contre l'Angleterre, le scénario serait pas tout à fait le même.
Et c'est les Gallois qui prennent l'habitude de nous battre régulièrement. Pourtant, on peut pas dire qu'ils étaient très très impressionnants sur ce quart de finale.
Ils ont pris goût, quand même.
Ouais. Bon, Gilles, maintenant, il va falloir continuer la reconstruction. Brunel s'en va après donc Noves qui est parti il y a donc 2 ans. Galtier, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour que cette équipe de France puisse pourquoi pas être championne du monde en 2023?
Galtier, il a un travail énorme. Par contre, il a un potentiel, comment dire, jeune, qui a été champion du monde des moins de 20 ans.
Moins de
20 ans.
Ça c'est important.
Ça, c'est important. C'est un vivier. Mais après, il va falloir travailler avec les clubs pour la mise à disposition des joueurs, pour vraiment que...
Il faut intégrer ces jeunes dans les équipes majeures aussi.
Faut les intégrer et puis certainement travailler et faire en sorte que les joueurs soient un peu plus disponibles, travaillent plus ensemble, plus souvent ensemble. Identifier assez rapidement un groupe peut-être de 45-50 joueurs susceptibles dans 4 ans de se faire cette Coupe du Monde. Mais il est bien évident que le chantier est immense. À la fois le challenge est beau, mais quand même, le chantier est quand même...
Ce qu'on a déjà évoqué il y a quelques temps, c'est peut-être essayer de réformer ce championnat de France qui fait qu'on a des matchs internationaux en parallèle du championnat.
Oui, mais comment font les Anglais, comment font les Irlandais, comment font les Gallois dans leur championnat? Ils ont moins d'équipes?
Ils ont moins d'équipes, mais bon, est-ce qu'ils jouent également en championnat pendant les matchs du tournoi? Je ne sais pas, très sincèrement, je ne me suis pas posé la question.
Jacques, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut essayer de réformer le
championnat.
Le top 14,
c'est vrai que c'est sidérant quand même d'avoir des matchs de championnat pendant des matchs internationaux ou des Coupes du Monde.
C'est le seul jeu d'équipe où ça se passe.
Écoutez, si on parle du top 14, effectivement, on sait que c'est le championnat le plus relevé du monde. Donc, c'est des matchs qui sont quand même d'une intensité importante, avec des internationaux de tous les pays.
Voilà, c'est ça, mais c'est le plus beau parce qu'on a beaucoup d'internationaux qui viennent.
On a les meilleurs joueurs du monde, pratiquement, qui sont là.
Ce qui nous amène souvent à faire des finales de l'Europe.
Et puis, c'est vrai qu'après, c'est top 14, ça fait beaucoup de matchs, en match aller-retour, en plus, les Coupes d'Europe. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a certains internationaux qui arrivent peut-être toujours un peu émoussés. Lors des Coupes du Monde, d'ailleurs, oui.
C'est ce qui fait qu'on manque de discipline dans ces matchs internationaux? Autant de points dans les matchs.
C'est un peu redondant, je dirais, à l'équipe de France, parce que des manques de discipline.
Sauf sous la porte,
Manques de discipline, j'en ai toujours connu, j'en ai toujours vu chez les Français. C'est notre, notre culture qui est un peu comme ça, peut-être, un peu de latin là-dessous, et puis. Et puis c'est vrai que c'est un peu chaud.
Tenir une mi-temps, perdre autant de ballons sur prendre des essais sur autant de ballons perdus quand même, c'est.
Ils sont capables du pire et du meilleur, mais c'est vraiment français quoi. Hein. On est capable de battre les meilleurs et puis de perdre contre des équipes des fois qui sont un peu en dessous de nous.
Gilles, ça a toujours été ça un peu? C'est le côté latin de notre équipe de France?
J'ai plutôt l'impression que les Anglo-Saxons sont vraiment. Vraiment structuré. Ils ont une matrice de jeu que l'on n'a pas, une préparation physique, que l'on n'a pas. Il y a simplement qu'à voir la photo des joueurs dans les vestiaires, torse nu. On a que des gars bodybuildés. Ils ont une condition physique au-dessus de nous. Techniquement, je pense que les gars, ça joue au rugby. Hein, y a pas, on l'équipe de France, on sait jouer au rugby. Ouais. Mais puis il y a peut-être aussi une approche psychologique, c'est pas normal.
Oui.
À la fois autant de déchets dans le jeu.
C'est ça, c'est surtout ça, c'est cette approche psychologique, voilà. Parce que je suppose que physiquement l'équipe de France elle travaille.
Bien sûr, mais à la fois il y a du déchet dans le jeu, il y a des choix de jeu qui sont plus que discutables, des pertes de points au pied qui sont tout simplement impensables à ce niveau-là. Là, le quart de finale, on a 5 points, tout fait.
C'est ça.
On perd beaucoup de ballons. Ouais. On joue en seconde division, on ne joue pas en première division. La première division, il y a quoi, 4, 5 nations qui peuvent y jouer, on n'est pas dedans. Enfin, en tout cas, ça fait un bout de temps qu'on n'y est plus. Quoi.
L'arbitre qui s'est exposé en quart de finale là, sur les réseaux sociaux, vous en avez trouvé quoi?
C'est plus une
commune. C'est nul, c'est quand même incroyable. Non, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même incroyable.
Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est
avec les Gallois, quoi.
Ils sont exposés médiatiquement.
C'est ça qu'il faut.
Ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde qu'une photo prise dans la rue, elle ne va pas faire tour du monde.
Ils sont fait un
petit quart d'heure de gloire.
C'est quand même incroyable.
Il y a toujours des gens qui sont à l'affût de ce genre de choses.
Il a été convoqué par la commission de discipline.
Et ça lui a valu.
Il s'est vu quand même attribué comme directeur, pas directeur de jeu, mais comme arbitre de touche pour une demi-finale.
Ah, donc ça lui a pas trop mal réussi.
Ça lui a pas trop mal réussi.
C'est quand même assez paradoxal.
C'était hors match. Hein. Bon,
quand même. C'est déplacé.
On sait que t'as des excuses. Hein. Voilà.
Alors, justement, les demi-finales. Donc, l'Angleterre qui bat la Nouvelle-Zélande 19-7. On s'attendait à un match beaucoup plus serré, beaucoup plus équilibré. Et puis finalement, l'Angleterre, elle a complètement muselé cette équipe All Black.
Mais oui, c'était un petit peu. On s'y attendait un petit peu parce qu'on savait que ces Anglais étaient prêts.
Oui.
C'était
une équipe. Mais on s'attendait à un match plus serré quand même.
Ouais,
on s'est dit que ça va jouer à 2-3 points, quoi.
Oui, bon, les Blacks, on est habitué à les voir gagner. Mais on sentait que les Anglais étaient.
Sur ce qu'ils avaient montré contre l'Australie, il fallait compter sur eux.
Ils étaient capables de le faire. Mm-hmm. Mais ils l'ont fait, j'irais vraiment avec un match où il n'y a vraiment pas eu beaucoup de fautes pour eux. Ils ont vraiment tenu ça. Moi, ça a été un match. Impressionnant au niveau de, justement on parlait de l'hémisphère sud qui est toujours un peu en avance sur l'hémisphère nord au niveau de la régularité mais là j'ai vu les Anglais qui étaient bien au-dessus des Blacks et puis vraiment ils méritent ce match.
Alors Jacques avant l'émission disait souvent ceux qui battent les Blacks en demi-finale après ça passe plus.
Je me suis rendu compte de ça.
Ça arrivait dans le passé pour l'équipe de France. Hein.
Je me suis rendu compte que c'est curieux, mais quand on a battu les Blacks, toutes les équipes, j'ai l'impression de l'hémisphère nord, quand ils battent les Blacks, ils sont champions du monde hein, avant d'être arrivés au bout. Quoi.
Bon,
ils ont fait le match de leur vie. Quoi.
Par contre, ça fait 1-0 pour l'hémisphère nord, hein, devant l'hémisphère sud. Hein. Ouais.
Non, le premier quart d'heure, Angleterre, Nouvelle-Zélande, premier quart d'heure, tout simplement de toute beauté, par des Anglais, un rugby vraiment de très 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 haut niveau. Moi j'étais surpris, effectivement, je pensais pas qu'il y aurait un tel écart, mais je pense que la tactique des Anglais le schéma tactique leur a donné raison. Ils ont été chercher les All Blacks très très haut.
Ouais,
ils ont surtout pas laissé le temps s'exprimer.
Oui, c'est ça. Ils ont bouffé physiquement, quoi. Un peu comme hier, l'Afrique du Sud.
Ils ont eu une première ligne au top, un 4 anglais qui a été impérial en touche. Leur troisième ligne, la numéro 6, tout jeune, 21 ans, là, qui a plaqué à tour de bras. Et un jeu au pied, je veux dire, d'une grande régularité. Mais ils ont été, je pense, pour moi, le fait le plus marquant, c'est qu'ils ont été chercher les Néo-Zélandais très très haut. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir ni passer ni s'exprimer. Ils ont été un peu pris à la gorge, je pense, et d'autant plus surpris que s'ils avaient simplement laissé ce petit décalage, les Blacks auraient peut-être pu passer et attaquer plus rapidement. Là, ils ont été pris, mais alors... pris sur leur propre
jeu.
C'est le match référence des Anglais, avec le match contre l'Australie aussi.
Ils sont peut-être arrivés psychologiquement au dominateur, les Blacks, en se disant, bon, c'est les Anglais, l'hémisphère,
ça peut arriver un peu de suffisance des fois, c'est comme ça qu'on les bat.
Mais je pense, il y a un peu de ça aussi.
Oui. Bon, dans l'autre demi-finale, ça a été plus serré, hein. L'Afrique du Sud qui bat le Pays de Galles 19-16, le match n'a pas été aussi spectaculaire. C'est passé ric-rac quand même pour l'Afrique du Sud, messieurs.
Oui, alors là, c'était un match où, excusez-moi, je me suis un peu ennuyé, moi, devant l'écran.
Ça arrive. Sur une Coupe du Monde, ça arrive. Hein.
Autrement, mais pareil.
On dit un petit peu que des fois, l'enjeu tue le jeu. Et ben là, on était tout à fait dans un match qui était très équilibré quand même, hein, quelque part. Hein. Et les Gallois qui avaient fait des dernières années, qui avaient eu des bons résultats, Moi, je pensais qu'il pourrait passer. Et puis bon, ben, il a fallu quoi, une pénalité, hein, pour que voilà, que ça soit l'Afrique du Sud qui soit là.
Et là, l'hémisphère sud qui revient au score, voilà. Partout.
Oui.
Bon, mais c'est vrai que quand on voit ces deux demi-finales, bon, on se dit Afrique du Sud, donc Angleterre, ça va être la finale, c'est la revanche de 2007. Sur les deux demi-finales, on voyait plus les Anglais que l'Afrique du Sud, hein.
Ah oui.
Comme quoi, les impressions, faut toujours s'en méfier.
Ouais,
parce que les résultats de l'Afrique du Sud étaient bons, mais sans être fabuleux. Hein. Donc on pouvait s'attendre à une victoire de l'Angleterre, effectivement.
Justement,
je sais pas si c'est propre aux équipes de l'hémisphère nord, mais jouer deux nations majeures de l'hémisphère sud et puis les gagner, et ben ça ne arrive pas souvent, j'ai l'impression.
Oui, non, c'est sûr. L'Angleterre avait battu l'Australie et puis la Nouvelle-Zélande après. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi un peu des tableaux aussi. Hein.
Aussi, ouais, un petit peu. Ouais. Ouais.
Alors la troisième place, la Nouvelle-Zélande avait à cœur de se racheter. Cette équipe de Nouvelle-Zélande qui a là aussi très nettement dominé le Pays de Galles, 40-17. Il n'y a pas eu photo sur ce match aussi, messieurs.
Il n'y a pas eu photo parce que, à mon avis, ils l'ont abordé avec l'esprit de vengeance, en se disant on ne va tout même pas finir quatrième. Hein, ouais. La différence, elle est là, mon ami.
Oui, les pauvres Gallois, c'était un peu comme l'Irlande, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont.
Ils sont décompressés,
mais bon, voilà. Il y avait un monde d'écart.
Il y avait qu'une équipe sur le terrain.
Ouais, c'est ça.
Je pense que déjà les Gallois avaient déjà atteint leur objectif.
Oui, ils étaient déjà contents d'être là.
Les Néo-Zélandais voulaient absolument sortir troisième et d'être sur le podium. Enfin, moi, quand j'ai vu le match, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Hein.
C'est un échec quand même pour cette génération-là de la Nouvelle-Zélande qui va pas faire la passe de trois. Ils ont gagné en 2011, ils ont gagné en 2015. Cette génération qui va partir, certains gens vont partir. C'est un échec pour cette génération. Troisième, bien sûr.
Oui, enfin, ils ont quelques ans été champions du monde, hein, déjà.
Oui, bien sûr.
De 2015, un échec, je sais pas.
Est-ce qu'ils considèrent eux ça comme un échec, peut-être?
Certainement,
si vous voulez faire la passe de trois.
Compétiteurs comme ils sont, le fameux comme ils sont, il fait effectivement le fait de pas être champion du monde pour eux, c'est un échec.
Surtout que chez eux, il n'y a que ça qui compte.
Ouais, ben moi, le match que j'ai vu là, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Il était clair que les Gallois, à mon avis, ils avaient tout donné dans la demi-finale. Ils sont arrivés, c'était vraiment une moussée.
Ils n'étaient pas motivés.
Non, je pense que là, ils avaient peut-être espoir, je pense, parce que bon, ils échouent à 3 points hein, finalement de la finale. Hein, ils ont dû être vraiment déçus, je pense. Et puis les Blacks, eux, par contre, avaient tout approuvé, à dire qu'ils étaient encore là, qu'il fallait compter sur eux pour les années à venir. Et puis voilà, quoi, ils voulaient quitter cette Coupe du Monde, mais sur une bonne note. Et puis bon, ils ont réussi quand même. Troisième.
Et puis, on arrive à cette finale, celle de hier, donc très largement gagnée par l'Afrique du Sud, 32-12. On parlait des Anglais qui avaient été excellents contre l'Australie puis la Nouvelle-Zélande. Les Anglais sont passés complètement à côté de leur match parce que l'Afrique du Sud a fait le match qu'il fallait faire, physiquement et puis pour le reste.
Ah oui, alors là.
Il n'y a pas eu photo,
quel match,
hier. Hein.
Quel match. Oui. Alors je me rappelle encore de la première mi-temps où j'étais inquiet, je me disais bon ça y est on va encore voir un.
On va dormir.
Ouais, c'était un match assez un peu fermé.
Ouais,
hein.
Je me disais
ça s'est débridé sur la fin. Ouais.
Un match fermé, pas beaucoup d'essais. Bon mais des fois ça change et puis là heureusement la deuxième mi-temps ça a vraiment été bien mieux avec deux essais magnifiques.
Deux beaux essais en plus.
Deux beaux essais, ouais. Deux ailiers d'ailleurs qui marquent. Et
c'est ça qui est bien, c'est que c'est les ailiers qui marquent parce que dans la Coupe du Monde.
On voit que les gros gabarits, mais là,
on voit que les gros gabarits.
Deux essais qui sont pas faits. Hein. Un qui relève d'un exploit personnel. Oui. Et le deuxième d'une très grande technicité. Parce que le petit coupé par-dessus, côté fermé, coupé par-dessus, repasse à l'intérieur. Enfin, c'est quand même techniquement. Il n'y a rien à dire. C'est très, très beau, de très, très beaux essais.
C'est ce qu'on faisait en France il y a 15 ans, quoi.
Oui, voilà.
avec la réussite, les coups de pied, les rebonds, on connaît le rugby. Les rebonds sont jamais du bon côté. Et puis là, tout est bien, quoi.
Avec quand même, deux premières lignes, parce que il y a eu la première ligne de la première mi-temps, et la première de la seconde mi-temps, qui était quand même hors norme, un seconde ligne quand même, qui a été patron, un 8, hein, qui a distillé les ballons, qui était hors norme, un 9 qui a été, je veux dire, accrocheur, le 10, 95% de taux de réussite, enfin, qu'est-ce que vous voulez faire devant une équipe pareille, enfin, c'était du rugby haut de gamme, quoi. Voilà.
Oui. Sincèrement, on s'attendait à une telle prestation des Boches, parce que il n'y a pas eu photo hier, on restait sur les impressions anglaises, et ils ont peut-être reproduit ce qu'ont fait les Anglais contre les Boches,
ils ont reproduit contre l'Angleterre. Ils ont étudié leur jeu et ils ont piqué leur méthode sur ce match.
Ouais.
Oui, tout à fait. Non, mais il y a eu un. Enfin, je trouve ce qui a été très, très, très impressionnant, c'est le pack. Springbok, hein, qui a été quand même, qui a fait exploser le.
Ah oui, c'est ça. Le pack anglais, c'est la clé du match, hein. Physiquement, les Anglais n'ont pas existé à partir de là.
Et quand les deux piliers sortent, oui. ils font rentrer deux autres piliers, c'est du même acabit.
C'est hein. Du même acabit.
Ils font exploser la mêlée, hein. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, surtout qu'en face, il y a quand même de beaux bébés.
Oui.
Non, là, c'était du René, deux à rugby, voilà.
Mm-hmm. Or, non. Et on voit les 10 dernières minutes, hein, c'est le siège du camp anglais, hein. Ouais. Ils sont tous dans les 22, là.
Et puis, beaucoup d'intensité sur ces matchs. On a vu déjà beaucoup de blessés dès les premières minutes, hein, deux Anglais qui sortent, une épaule déboîtée pour un deuxième ligne sud-africain.
Ça, je pense que le pilier qui sort, ouais. ça joue, c'est un fait de jeu, mais en tout cas, ils ont déroulé un rugby, mais qui est tout simplement de. Mm-hmm. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'ils gagnent une finale.
Oui, en marquant des essais, oui.
Les deux dernières étant, ils ont été consacrés champions du monde.
C'est vrai.
Avec eux des jeux au pied. Oui. Là, non, et c'est un rugby qui a évolué. C'est très, très belle.
C'est vrai qu'ils avaient battu, on se rappelle, en 95 la Nouvelle-Zélande, chez eux, hein, à la prolongation. Il n'y a eu que des pénalités sur ce match. Ils avaient gagné la Coupe du Monde à Paris, en France, la finale, justement, devant l'équipe anglaise. Mmh. C'était un match fermé qui s'était joué que sur les coups de pied. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Jacques. On s'est dit, ça va être pareil à la fin de la première mi-temps. Et puis, bon, ça s'est complètement libéré en deuxième mi-temps avec une équipe qui a quand même montré autre chose, hein, dans son jeu. Alors sur moi, un plan général.
Oui, alors moi, tout à fait. Quand je vois un petit peu la première mi-temps, en regardant encore bien, c'est vrai qu'on voit un pilier anglais sortir, alors qu'ils avaient une mêlée qui était forte, enfin qui nous avait très impressionnés, hein, jusqu'à là. Et le pilier sorti, le remplaçant, je ne sais pas s'il a été en dessous de celui qui était sorti, mais on a vu une mêlée après qui commençait à j'iracuser le coup, quoi. Alors, à l'inverse, chez Sudaf, quand vous avez une pièce maîtresse qui sort, on se dit derrière, les gars qui rentrent, ils sont aussi forts, aussi motivés. Et ça a peut-être été un élément déclencheur, je dirais, dans la victoire des Blacks, enfin des box d'Afrique du Sud, et qui effectivement, elle avait, je dirais, des joueurs en réserve qui étaient capables de jouer cette finale et puis de
maintenir le niveau.
De maintenir le niveau, ouais.
Bon, la fête a été énorme parce que pour ce pays-là, apparemment, ça va, qui a encore des problèmes, ça va être.
C'est une bonne chose pour l'Afrique du Sud, parce que bon, j'ai quelques amis qui sont allés, il y a encore cette ségrégation sous-jacente là-bas, c'est clair. Hein.
Ah ouais. Donc c'est une équipe quand même qui gagne. Ça c'est pour les stats. On aime bien nous les journalistes les stats qui gagnent ces coupes du monde tous les 12 ans, oui. Hein, 95, 2007, 2019, et puis trois finales, trois fois gagnées. Ça, c'est du jamais vu. Elle a perdu aucune finale par rapport aux Blacks qu'on a déjà perdu une, ou les Anglais qu'on en a perdu trois, hein, comme nous les Français, même si c'est la seule équipe de l'hémisphère nord à l'avoir gagnée.
Bah, tous les 12 ans, moi, ça me va très bien, parce que s'ils pouvaient laisser la place dans 4 ans, ça serait très bien.
Ouais.
Bon, c'est des gens pragmatiques. Je vois, par exemple, l'essai, le deuxième essai qui a été marqué, les Lys, c'est son premier ballon, quand même. Mm-hmm. Donc, le ballon tombe, il y a un joueur qui récupère, il fait la bonne passe à l'ailier. Qui a un exploit personnel, une passe, un essai. Hein. Enfin, c'est quand même des gens pragmatiques, des joueurs hors normes.
Bon, on l'a vu souvent dans le passé, ils ont gagné des matchs, c'était pas très brillant, très spectaculaire, mais là, ils ont mis le spectacle, c'est ça qui est important.
Ah oui, non, c'était splendide. Vraiment, très très belle finale.
Voilà, ben, que ce soit la troisième place ou cette finale, c'est encore l'hémisphère sud qui a prévalu. Bon, c'est ce qui montre encore l'écart qu'il y a entre les deux hémisphères. Hein.
Oui.
Oui, puis la logique est que quand on fait 1, 2, 3, premier, deuxième, troisième, de toute façon, c'était les trois qui étaient favoris pour être champion du monde. Mmh. Donc, c'est une logique, la logique est respectée, il n'y a pas de surprise.
Oui.
Surprise, si, au travers du match des Anglais contre les Blacks et des Springboks contre les Anglais. Là, effectivement, ce sont deux belles surprises parce qu'on ne s'y attendait pas tout à fait à ce déroulement de match. Mais parmi les trois premiers, bon, bah, c'est ce qu'on avait parié au début. Les trois étaient favoris. Donc,
oui, et quand on regarde maintenant, bah, l'Afrique du Sud a trois victoires en Coupe du Monde, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie 2. Donc c'est les nations qui dominent le rugby. Il n'y a que les Anglais qui ont une seule victoire dans l'hémisphère nord. Voilà.
Et puis la France a zéro encore. Alors,
oui, bah, ça viendra, mais ça on va. Hein, ça viendra, on commentera ça.
Il y a du travail.
En 2023. Voilà, allez, la petite page de pub, la pause musicale, et ensuite, bah, on va finir avec ce mondial de rugby 2019 qui nous a passionnés.
On vit
de nager ou de se détendre? La piscine des Molières aux Essert-le-Roi offre des espaces aquatiques pour petits et grands. Le bassin de 25 mètres, dont la toiture permet une ouverture intégrale, le bassin ludique avec canon à eau et contre-courant et la pataugeoire. Il est aussi possible de profiter du grand jardin pour les bains de soleil. D'autres activités sont à découvrir. L'espace forme avec vélo elliptique, rameur, sauna, hammam, l'aquagym et l'aquabike. Plus d'infos sur www.rt78.fr.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, un petit mot quand même sur la présence française en finale, Monsieur Garcès. L'entraîneur, hein, qui a été, qui a brillamment donc représenté le rugby français.
À la fois, il y a Garcès, il y avait aussi Poite,
oui.
qui était à la touche. Non, très belle prestation de l'arbitre, c'était un beau match. C'est un beau match parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne l'a pas vu l'arbitre. Mm-hmm. Donc c'était les joueurs qui étaient vraiment les principaux acteurs. Et lui, il a orchestré le match. Non, très bien, très belle prestation.
Oui, ça a été mérité. De toute façon, c'était son dernier match, sa fin de carrière.
Ouais, là, c'est
ça a dû plaire à notre ami Thierry Cazalet.
Ça a dû plaire à Thierry. Ouais, bonjour Thierry.
On le salue Thierry, je sais que je vous écoute le dimanche.
Oui, il est un fidèle auditeur.
Ouais.
Non, c'est un bel arbitre, il a une belle carrière. Et terminé sur une finale de Coupe du Monde, je crois que c'est.
Ouais. Sur le gâteau.
Ouais, Jacques, le rugby français était bien représenté grâce à cette finale de l'arbitrage. On aimerait avoir pareil dans le foot. Hein.
Ah oui, mais moi, c'est vrai qu'on a quand même des bons arbitres. Hein. Tu t'as nommé Romain Poite, là. Mais... C'est moi quelqu'un que j'apprécie aussi énormément parce que je trouve que l'arbitrage français il est vraiment bien quoi. C'est sérieux, c'est vraiment pointu. Ça méritait, cette Coupe du Monde a mérité un arbitrage. Un bon arbitrage, ah. Et puis ils ont été vraiment pros. Quoi.
Et l'arbitrage neutre, quoi, parce qu'un Français qui arbitre des anglophones, c'est bien.
Oui. Mais c'est mérité, Francis, quand même.
Non, c'est un arbitre de haut niveau, de classe internationale. Il termine sur une Coupe du Monde. C'est vraiment, pour lui, très, très tranquille.
Et ça permet d'exister encore un peu, la France.
Mm-hmm. Très bien, mais messieurs, merci. Il y a une image forte qui va rester cette Coupe du Monde, pour vous?
Ah ben oui, quand le capitaine Springboks, il lève la Coupe du Monde à la fin.
Un noir en plus, hein, donc c'est important.
Ouais,
un homme de couleur, c'est important.
Ouais,
c'est un beau symbole.
Une image qui va être,
ouais.
qui...
C'est une image forte hein, quand même hein, pour l'Afrique du Sud. Hein, c'est,
tout à fait. Ouais, c'est une image qu'on gardera longtemps.
Francis, vous aussi, c'est la même image que vous allez garder?
Oui, cette même image et puis la prestation des Japonais aussi.
Oui.
Et Gilles?
J'ai vu d'ailleurs un truc qui m'a touché, j'ai vu beaucoup de joueurs avec leurs enfants sur le.
Oui, c'est vrai.
Mais là, de tous les pays. Juste dernier petit point, sais que nous sommes dimanche.
Oui.
Tu sais que nous sommes à Rambouillet.
Oui.
Donc dimanche à Rambouillet, à 15h, on joue au rugby au stade du Vieux Moulin.
C'est bien.
Une équipe qui est en reconstruction, qui a fait trois belles prestations. Donc j'invite toutes les Rambolitaines et Rambolitains et des alentours, bien sûr, tous les passionnés de rugby, de nous rejoindre. Coup d'envoi à 15h contre Aulnay. Ça sera certainement un très, très, très beau match.
Justement, c'est une question que j'allais finir pour finir. Cette Coupe du Monde, elle peut inciter des jeunes à venir pratiquer le ballon ovale? Malgré le fait que l'équipe de France se soit arrêtée en quart de finale.
Oui, à partir du moment où il y a un événement sportif mondial avec la couverture médiatique qu'il y a, on aura automatiquement des retombées, mais certainement pas avec autant d'intensité que si la France avait brillé. Mais il y a eu une belle couverture médiatique. Le seul petit reproche à ce niveau-là, c'était au Japon, c'est quand même les horaires.
Les tributaires.
Il y en a qu'on peut plus voir tous les matchs. Hein.
Ouais.
Voilà, faut le voir au bureau, mais faut pas en parler.
Comme le mois dernier, Gilles, vous aviez.
Extrêmement discret. Faut pas que ça soit répété.
Voilà, messieurs, merci. À très bientôt pour parler donc de ballon ovale. Francis, on se retrouve le mois prochain pour Tribune Foot.
Oui, tout à fait.
Hein, et puis vous êtes en stand-by pour les chevaux actuellement.
Ils sont dans la salle de départ.
Ouais, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Tribune Sport. Si on parlera de course à pied et de vélo, on aura donc un invité sur le Gala des Stars qui se profile donc à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis on parlera de la course des 4 châteaux. On va remercier Guillaume d'avoir été excellent ce matin aux manettes, comme l'avait été Arthur la semaine dernière. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis restez-nous fidèles tout au long de cette semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la tempête Amélie se rapproche. 15 départements allant de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques en passant par l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont désormais placés en vigilance orange vent violent. Les rafales de vent, souvent accompagnées de fortes pluies, ont atteint 163 km/h au Cap-Ferret et 146 km/h à Belle-Île. En Gironde, le trafic des TER est interrompu et celui des TGV est perturbé. Deux autres départements, la Corse du Sud et les Alpes-Maritimes, ont été placés sous vigilance orange, pluie, inondation. Emmanuel Macron en Chine, le président français entame demain sa deuxième visite officielle en Chine. Pendant trois jours, le chef de l'État vantera les produits français, principalement agroalimentaires. Il inaugurera une